soir, le gouvernement congolais se dit déterminé à rendre la diplomatie congolaise plus agissante et faire en sorte que la RDC soit surtout présente dans les sièges des grandes organisations. C'est ce qui découle de la rencontre jeudi dernier à Kinshasa du vice-premier ministre chargé du budget, du ministre des Affaires étrangères et celui des Finances. Ces derniers se sont penchés sur les difficultés de fonctionnement des ambassades de la RDC à travers le monde. Quelle analyse faire de cette situation? Nous recevons comme invité Maître Célestin Tunda Yakassende, vice-ministre des Affaires étrangères. Monsieur le vice-ministre, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Thomas Mambo, diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique depuis 25 ans. Il vit à Bruxelles depuis 43 ans. Monsieur Mambo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Merci également d'être venu. Professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir.
Merci également d'être présent dans cette émission. Merci aussi à vous, chers auditeurs internautes, pour vos réactions. Patrick Ngoy de Mbujimayi au Kasaï Oriental, que notre gouvernement arrête de rêver car ce n'est pas la première fois que nous entendons de tels discours. Professeur Ignace Ndala de Kolwezi au Katanga, je salue à juste titre cette rencontre des ministres qui montre la prise de conscience par le gouvernement de l'image peu ou pas respectable de notre pays à l'extérieur, motif du manque de considération que nous affichent beaucoup de nos partenaires. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Les ambassades de la République démocratique du Congo sont confrontées à plusieurs difficultés de fonctionnement. De plus, la plupart des bâtiments abritant ces ambassades souffrent de vieillissement, sans oublier le nombre pléthorique de leur personnel qui enregistre plusieurs mois, si pas des années d'impaiement. Le gouvernement se dit déterminé face à cette situation à rendre la diplomatie congolaise plus agissante et faire en sorte que la RDC soit surtout présente dans les sièges des grandes organisations. C'est pour traiter toutes ces questions que le vice-premier ministre et ministre du budget, celui des affaires étrangères et celui des finances se sont rencontrés jeudi dernier à Kinshasa. On écoute Raymond Tshibanda, ministre des affaires étrangères, dans ses propos recueillis par Nadine Foulansimba.
Il y a pléthore dans les ambassades. Nous avons des arriérés de loyers, des arriérés de salaires. Nous sommes confrontés au problème du délabrement du patrimoine immobilier de la République à travers le monde et que cette année soit l'année du démarrage de la réhabilitation de la diplomatie congolaise et donc de l'assainissement de nos ambassades à travers le monde. Le coût, il est important et il est clair qu'il ne sera pas possible que ce coût soit rencontré sur un seul exercice budgétaire. Mais comme il est dit, même le chemin le plus long commence toujours par un premier pas. Le plus important, c'est que nous commencions et nous sommes convaincus que petit à petit, nous allons régler le problème. En le laissant sans nous en occuper, nous ne faisons qu'aggraver le problème.
Monsieur Maître Célestin Tunda Yakassende, je rappelle que vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères. Ça fait quand même beaucoup de temps que la situation des ambassades de la RDC laisse à désirer. Qu'est-ce qui justifie, quelle était l'opportunité de cette réunion qui a regroupé les trois ministres?
Oui, je crois que d'abord je vous remercie pour votre invitation à l'antenne de Radio Okapi. Vous savez, je suis un participant assidu des émissions à la radio Okapi. Je vous remercie de la confiance pour ne m'avoir pas oublié malgré mes fonctions actuelles. Alors, pour revenir à votre question, je devrais situer d'abord la problématique. Cette situation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous l'avons héritée de la Deuxième République. Rappelez-vous, il y a des dizaines d'années déjà, lorsque le maréchal Mobutu avait fait la consultation populaire et il s'était buté au mémorandum que les agents des affaires étrangères avaient écrit. Ça n'avait pas plu au président de l'époque et il avait décidé de ne plus totalement prendre en charge, n'est-ce pas, les frais qui concernaient la diplomatie congolaise. Et à partir de ce moment, c'était la descente aux enfers. Mais aujourd'hui, avec la politique initiée par le président de la République, Joseph Kabila, laquelle politique s'insère dans la vision et dans les idées fortes du président de la République pour le développement et l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici l'horizon 2030. Eh bien, la diplomatie constitue une des branches importantes de la politique du gouvernement, et pour répondre justement à l'engagement du chef de l'État pour moderniser la République démocratique du Congo, eh bien, il y a un axe important, celui de la diplomatie, qui concerne le renforcement de la diplomatie et de la coopération à travers le monde. Et c'est cela qui constitue le soubassement de la réunion à laquelle vous faites allusion, la réunion qui a réuni le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et le vice-premier ministre chargé du budget, pour essayer d'apporter des solutions, n'est-ce pas, qui endiguent encore la diplomatie congolaise. Donc, si je dois me résumer, nous sommes en train de répondre, en fait, à l'engagement du chef de l'État, qui cherche à moderniser le pays, et la diplomatie, c'est une branche importante du pays, c'est un pilier important de la politique nationale, et donc nous sommes en train d'apporter maintenant des solutions par rapport à toutes les questions qui se posent à notre diplomatie, que ça concerne le problème des vétustés des immeubles, comme le ministre Tshibanda venait de le dire dans sa déclaration tout à l'heure, que ça soit le problème de l'équipement en mobilier ou en charroi automobile au niveau de nos ambassades, que ça soit le problème du rapatriement des diplomates qui sont arrivés fin terme, que ça soit le problème du règlement des arriérés, des émoluments des diplomates ou des engagés locaux, que ça soit tous ces problèmes, toutes ces préoccupations,
Monsieur le vice-ministre.
Eh bien, nous sommes en train donc d'apporter des solutions à l'ensemble donc des éléments qui sont dans ces dossiers.
Monsieur le vice-ministre, on sait que depuis un moment, la RDC est victime de plusieurs agressions de la part de certains de ses voisins. Ne serait-ce pas cette situation qui a poussé finalement les autorités congolaises à sortir entre guillemets de leur sommeil? La RDC ne serait-elle pas en train de courir derrière sa diplomatie?
Non, la RDC n'est pas en train de courir derrière sa diplomatie. Je vous ai dit que et vous êtes journaliste, je crois qu'il y a des observateurs bien avisés qui sont en train de nous suivre. La politique actuelle du gouvernement a été publiée. Lorsque le gouvernement a été mis en place, eh bien la première tâche, c'était d'articuler les éléments essentiels de la politique gouvernementale. Et dans cette politique du gouvernement qui a été publiée, il y a un axe important, celui de la diplomatie. Et cet axe concerne des filières bien spécifiques. Donc, on n'a pas attendu qu'il y ait un événement particulier pour que nous puissions nous occuper de la diplomatie actuelle. Il suffit, comme vous êtes un homme des médias, de prendre le volume qui contient la politique du gouvernement dans l'ensemble. Vous prenez la partie qui concerne la diplomatie. Vous allez trouver là-dedans. Il y a d'abord des principes qui sont affirmés par rapport à la nouvelle diplomatie congolaise. C'est notamment, je vous donne quelques exemples, c'est de renforcer le leadership congolais dans les instances régionales et internationales. Donc ça n'avait rien à voir avec un événement quelconque. La politique du bon voisinage est bien répertoriée dans le volume sur la politique gouvernementale qui a été adoptée au niveau du gouvernement.
Merci.
La recherche des partenariats innovants, en particulier avec les pays émergents comme le Brésil, comme la Chine, comme l'Inde, la promotion des investissements directs étrangers, parce que notre diplomatie doit être tournée maintenant vers le développement.
Monsieur le vice-ministre.
Oui, oui, monsieur le journaliste.
Je vous en prie, souffrez que je vous arrête sur ce point. Le temps de donner la parole à Thomas Mambo. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous redonner la parole. Thomas Mambo, je rappelle que vous êtes diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique depuis 25 ans et vous vivez à Bruxelles depuis 43 ans. Comment vous avez reçu cette réunion pour la relance de la diplomatie congolaise?
Merci, monsieur le journaliste. Je suis très content d'avoir appris cela et avoir suivi et lu l'article dans les journaux. Nous sommes réconfortés, puis ça fait des années, 2007-2009, les autorités prennent des décisions, comme nous tous, nous sommes pour notre diplomatie, pour qu'il aille de l'avant. Et cette fois-ci, on espère que à la parole suivra des actes. Et pour ça, il faudra des moyens pour les faire.
Alors, vous êtes également membre de l'association Diplomates Abandonnés, si je ne me trompe pas.
Oui, donc les anciens diplomates rappelés, qui sont abandonnés depuis une décennie, sans assistance, sans moyens. C'est pourquoi nous sommes réunis à une association pour défendre nos droits. Nous avons sollicité l'appui d'un avocat à Bruxelles et nous avons demandé justement au gouvernement congolais de pouvoir honorer ses engagements envers nous, ces anciens diplomates.
Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique depuis 25 ans. Ça fait 43 ans que vous vivez à Bruxelles. Revenons un peu sur la situation du diplomate congolais à Bruxelles. Décrivez-nous un peu sa situation.
Les diplomates congolais à Bruxelles, il y a tout d'abord les anciens, les nouveaux, ceux qui sont en activité. Pour les anciens, ici, je parle surtout des anciens, que depuis qu'on nous a demandé de revenir, nous a demandé de cesser de travailler et d'attendre le rapatriement. Et cela prend le temps et cela a causé pas mal de problèmes de subsistance de diplomates en Belgique et dans d'autres pays aussi. C'est le même problème. C'est pourquoi nous sommes associés pour pouvoir défendre nos droits, pour pouvoir avoir des suites à nos revendications. C'est une des raisons que je suis ici à Kinshasa pour rappeler justement ce dossier. J'ai demandé depuis longtemps, comme d'autres collègues, à pouvoir revenir puisqu'on ne peut pas continuer à subir les conditions d'assister en Europe. On souhaiterait revenir à son pays, participer au développement du pays.
Et donc, pour survivre, vous vous débrouillez?
Oui, on se débrouille suivant les circonstances en Belgique ou en Allemagne ou en France. Tout d'abord, comme on n'avait plus de soutien du gouvernement, heureusement que nous qui sommes en Belgique, on a eu l'assistance publique de la Belgique en attendant qu'on puisse trouver une solution à nos problèmes.
Alors, en coulisses, vous m'avez dit que vous aviez écrit sans réponse, ça fait plusieurs années. À quoi vous attribuez cette lenteur?
J'ai le constaté, j'ai fait presque une année que je suis à Kinshasa pour suivre justement le dossier. J'ai écrit au ministère, à plusieurs autorités, plusieurs fois. On a écrit des mémorandums, on n'a jamais de suite. C'est pourquoi je suis venu sur place m'en enquérir pour pouvoir justement avoir une suite à ces problèmes.
Et donc, et jusque-là, rien n'a encore été fait. Vous n'avez reçu aucune réponse?
Aucune réponse.
Alors, ça fait 43 ans que vous vivez à Bruxelles, c'est-à-dire que vous avez vécu pratiquement toutes les étapes de la diplomatie congolaise, sa période de gloire jusqu'à sa chute. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment?
Je ne dirais pas que nous sommes où je suis déçu de cette situation, mais je ne suis pas découragé pour mon pays. Nous voulons toujours pouvoir faire quelque chose pour le pays, puisque depuis, je ne suis plus à l'ambassade, comme d'autres collègues, je suis maintenant un lobbyiste, je participe à pas mal d'organisations internationales pour toujours essayer de faire quelque chose pour mon pays.
Alors, il y a cette réaction que j'ai lue en début d'émission, c'est Patrick Ngoyi qui nous écrit de Mbujima au Kassai-Oriental, qui disait que notre gouvernement arrête de rêver, car ce n'est pas la première fois que nous entendons de tels discours. Qu'est-ce que vous partagez son point de vue?
Oui, bien sûr, c'est qu'évidemment, le politique ne peut pas dire le contraire. Il doit toujours aller de l'avant, faire des propositions. Comme je l'ai dit tantôt, mais il faut les moyens. On peut avoir de la bonne volonté de pouvoir faire quelque chose, mais si on n'a pas de moyens, on ne peut rien réaliser.
Et de votre point de vue, le gouvernement se donne-t-il suffisamment de moyens pour ça?
Il voudrait se donner, mais c'est question, il faut les avoir. Savoir. Il ne suffit pas de les souhaiter, il faut les avoir. Nous espérons que cette fois-ci, ils pourront, l'essentiel, comme on l'a dit, de commencer. Parce que jusqu'à présent, ils disent, il faut attendre, on va rapatrier les gens, on va rapatrier tout le monde à une fois. Je trouve qu'on pourrait faire, au fur et à mesure, avoir une feuille de route, qu'on commence chaque année, on rapatrie autant, on fait telle chose, on ferme telle ambassade. Comme ça, on peut toujours faire quelque chose que d'attendre de pouvoir faire tout à une fois.
Professeur Moïla Chiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, quelle est votre analyse à ce niveau du débat?
Ben, disons que la situation de la République démocratique du Congo, telle que le ministre l'a exposé tout à l'heure, ça date de longtemps évidemment, de la fin du règne de Mobutu, depuis la conférence nationale souveraine et l'engagement du président Mobutu de faire chanter les gens du ministère des Affaires étrangères pour avoir non seulement fait le mémorandum, mais mis sur la table les différents moyens ou de ses biens à l'étranger, etc., etc. Donc depuis, la plupart, ou sinon la quasi-totalité de nos représentations diplomatiques, consulats, ambassades, ont été et sont dans une situation qu'on ne peut pas décrire. Un nombre de diplomates ont été chassés de là où ils résidaient. Certaines ambassades, des bâtiments diplomatiques ont été vendus. Il y avait même des débats à la conférence nationale sur certains pays. Bref, cette situation est tellement connue que si vous regardez les documents des conférences diplomatiques des ambassades, des ambassadeurs congolais que les différents chefs d'État ont tenus depuis Cheikh Kitundu jusqu'à aujourd'hui, le président de la République n'a cessé de répéter exactement ce desiderata et prendre l'engagement un jour d'en finir avec cette situation et essayer un peu, autant que faire se peut, de sortir et les hommes et la profession dans la misère où beaucoup de gens ont été plongés. Ne parlons même pas de la vétusté dont on a fait allusion tout à l'heure, des bâtiments et même les lieux où les gens travaillent, l'équipement, bien sûr. Depuis, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, à Bruxelles, pour ne parler que des ambassades importantes d'Europe, il y a eu un assainissement, un effort a été fait, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que avant de parler de la diplomatie n'est que l'application de la politique étrangère. C'est un champ d'application de la politique étrangère. Alors, on ne peut pas moderniser la diplomatie sans avoir préalablement redéfini, reconfiguré, réinventé ou modernisé la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Alors, sinon, là, on risque de mettre la charrie devant le bœuf. J'espère que Monsieur le ministre ou le vice-ministre ou le ministre, le cas échéant, ont en arrière-plan ces deux articulations, parce que s'il y a des problèmes de moyens, comme on venait de le dire, payer des arriérés, on n'a pas besoin de redéfinir une politique étrangère, parce que c'est une situation, on a des gens qui ont presté et qui sont dans la misère, quand bien même ils ne le seraient pas, c'est un devoir républicain de l'État de rapatrier ceux qui ont été au service de la République. C'est la moindre des choses. Donc, ça n'a rien à voir avec la redéfinition de la politique étrangère ou même de l'application de la diplomatie. Parce que là, nous sommes dans, comment dirais-je, nous sommes quasiment dans l'application de la politique, tout simplement, de tous les jours. Hein, comment on gère les ambassades, comment on gère les consulats, qui est là, qui part, qui vient, etc. Donc, c'est de la routine administrative, évidemment. Mais professeur, je pense que dans le premier temps, il est impératif que la République démocratique du Congo ne se presse pas. Il n'y a pas le feu à la maison pour dire. Il y a le feu, justement, pour régler les situations pendantes. Mais il faut d'abord redéfinir, refonder la politique étrangère de la RDC et voir maintenant comment on va l'appliquer. Alors, à partir de là, on peut faire une nouvelle déclinaison de cette politique, montrer ses ambitions, lui donner les moyens, etc. Sinon, on risque encore de rester au milieu du quai.
Professeur, je vous repose la même question, l'une des questions que j'ai posées tout à l'heure au vice-ministre Célestin Tounda. Est-ce que le contexte actuel aurait contribué à réveiller les autorités en ce qui concerne la diplomatie?
Non, quand on connaît, quand on lit les documents qui sortent, les déclarations officielles, les comptes rendus, comment dirais-je, des conseils des ministres, je sais, beaucoup de gens qui s'intéressent à la chose savent que ça fait depuis un temps que le chef de l'État a instruit le gouvernement, y compris le Premier ministre et les ministres responsables, de ce qu'il fallait faire et de l'urgence de le faire. N'eût été probablement ces événements de guerre de l'Est, je pense qu'on aurait déjà engagé une partie de la problématique de refondation de cette politique étrangère, quelle que soit la forme que le ministre choisirait ou est en train de choisir. Mais ça, c'est connu. Pour tous ceux qui s'intéressent à la chose, ça existe déjà. L'intention a été déjà montrée par le chef de l'État dans beaucoup de ses discours. Il ne reste évidemment qu'à traduire ces discours dans les actes, ce qui est le cas des propositions dont nous venons de parler.
Monsieur le vice-ministre Célestin Tounda, il y a Baptiston Lézi de Bukavu Sud Kivu qui dit « La diplomatie congolaise restera toujours défaillante, d'autant plus que l'État congolais ne dispose pas des moyens financiers favorables pour elle, car sans les moyens suffisants, rien ne peut se faire. » Monsieur le ministre, vous parlez d'une volonté politique clairement manifestée de la part du gouvernement, mais qui ne semble pas se matérialiser dans le budget.
Non, je crois que les décisions, pour le moment, sont en train d'apporter leurs fruits. La gestion économique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier ou d'avant-hier. Et je voudrais vous rappeler que vous avez suivi, je pense, attentivement, la mission du Premier ministre aux États-Unis. Même devant les instances appropriées sur le plan financier, comme à la Banque mondiale ou même au Fonds monétaire, même devant les partenaires américains que nous avons rencontrés, ils ont reconnu les performances de la République démocratique du Congo aujourd'hui sur le plan de la gestion économique, la stabilité monétaire. Je crois que vous ne vivez pas sur une autre planète. Vous vivez avec nous en République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous savez que le taux de la parité entre les francs congolais et les devises étrangères s'est resté constant et ça s'améliore au jour le jour en faveur de la monnaie congolaise. Eh bien, la croissance sur le plan économique, la croissance du PIB, nous sommes en train de quitter la croissance négative que nous avons connue il y a des années pour une croissance positive. Aujourd'hui, cette année-là était à plus de 7,7. Nous sommes en train d'aller vers l'année prochaine à une croissance du PIB de 8. Et nous pensons qu'en 2015, on va dépasser une croissance à deux chiffres. L'inflation, la même chose. Une inflation de plus de 4000%. Aujourd'hui, nous sommes à une inflation, n'est-ce pas, à un seul chiffre.
Et donc,
on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Maintenant, je crois que le gouvernement, et si j'ai fait allusion à la tournée du Premier ministre aux États-Unis, c'est pour vous dire que même jusqu'à ce niveau, les performances ont été reconnues. Et il y a des moyens aujourd'hui qui ont été mis à la disposition des affaires étrangères pour régler la plupart des problèmes qui ont été cités tout à l'heure. Et je voudrais vous dire, par rapport au diplomate qui a parlé tout à l'heure, qu'il dit qu'il est à Kinshasa il y a une année, et donc la situation de ses collègues qui sont restés à l'étranger est toujours difficile, c'est vrai. Mais je voudrais vous dire que le gouvernement aujourd'hui est en activité depuis 8 ou 9 mois, mais je lui donne une information. c'est que les diplomates qui étaient rappelés par les gouvernements antérieurs, eh bien, la plupart des diplomates sont déjà revenus au pays. Et il y a d'abord tous les diplomates qui étaient rappelés de Chine, qui sont déjà rentrés. Les diplomates qui étaient rappelés, qui étaient en Inde, ils sont revenus. Les diplomates qui étaient rappelés, qui étaient à Nairobi, ils sont revenus. Les diplomates qui étaient rappelés, qui étaient en Angola, ils sont revenus. J'ai toute une liste de diplomates dont le problème de rapatriement est déjà réglé. Et dans le budget actuel, une part importante a été réservée aux affaires étrangères. Vous l'avez dit vous-même, le ministre Tshibanda l'a précisé, que ce n'est pas en un seul exercice qu'on va régler tous les problèmes, mais les moyens importants ont été réglés suite à la volonté exprimée par le chef de l'État. Et le professeur Tshiembe a fait allusion à ça tout à l'heure. Je le sais, le professeur Tshiembe, je le connais bien, c'est l'un des rares analystes que le pays peut aligner aujourd'hui. Il a une bonne connaissance, effectivement, de la question diplomatique de notre pays. Heureusement qu'un homme très objectif et avisé, il vous a donné un peu quelques éléments du dossier. Merci. Donc les moyens aujourd'hui sont alignés. Le budget a prévu ce qu'il faut dans les différentes branches. Que ce soit pour le rapatriement, ça c'est un problème qui est déjà réglé à 40%, je dirais. Merci. Et nous sommes en voie de vider cette question. Les émoluments des diplomates, bientôt, nous allons les améliorer. Le paiement des engagés locaux, la même chose. Les arriérés des loyers, ainsi de suite. Donc je crois que nous sommes suffisamment armés.
Et donc les moyens sont là.
Je l'ai dit, d'abord, la volonté exprimée du chef de l'État. Deuxièmement, la politique économique rigoureuse et responsable qui est conduite par le Premier ministre, Matata. Et donc ces deux éléments mis ensemble font que nous avons aujourd'hui, d'un côté, la volonté politique bien exprimée et de l'autre,
les moyens. Merci,
les moyens, parce que les moyens du budget sont là. Et
merci,
donc,
monsieur le vice-ministre.
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens.
Voilà. Thomas Mambo, vous venez de suivre le vice-ministre Célestin Tounda. Êtes-vous rassuré?
Oui, je viens sur ce que le vice-ministre vient de dire. Mais à ce qui concerne la Belgique, la France et l'Europe, à ma connaissance, puisque bon, je suis ici, mais en principe, ma famille est toujours là, je ne suis pas encore rapatrié. Je suis venu justement demander un rapatriement qu'on demande depuis des années. Je suis très heureux si cela peut se faire prochainement, à ce qui concerne le rapatriement. À ce qui concerne le budget, il paraîtrait que justement, cette année-ci, puisque l'année passée, on avait cru qu'on aurait quelque chose, mais on a dit qu'aux affaires étrangères, que ce n'était pas budgétisé, que cette année-ci, que ça va être budgétisé. Alors j'espère qu'ils vont alors réaliser, commencer à rapatrier.
Alors, de votre point de vue de diplomate de carrière, aussi expérimenté que vous l'êtes, quelles sont finalement les solutions, quelles sont les propositions à présenter au gouvernement pour que réellement cette diplomatie soit restaurée?
Comme je l'ai dit tantôt, qu'il faut un programme à réaliser, à commencer. Par point par point, il y a les problèmes de rapatriement, les problèmes de salaire, les problèmes de fermeture de certaines ambassades. Et c'est de cette façon-là qu'on pourrait arriver à pouvoir résoudre ces problèmes. Il serait bon aussi de pouvoir mettre un peu un moratoire à l'affectation des nouveaux diplomates, puisqu'il s'est fait que depuis le changement de régime, on a fait qu'envoyer. Maintenant, peut-être on commence à rapatrier du côté de l'Asie et de l'Est, mais du côté de l'Europe, à ma connaissance, ça n'a pas encore commencé. Il y a quelques individus suivant les relations qu'on a pu rapatrier, mais la masse des diplomates rappelés sont toujours sur place.
Alors, vous parlez, parmi les solutions, vous parlez du rapatriement, des salaires qu'il faut payer, de la fermeture de certaines ambassades. Finalement, qu'est-ce qui pourrait être la priorité, selon l'ordre des priorités? Par quoi devrait-on commencer?
On devrait commencer par ne plus affecter de nouveaux diplomates.
Commencer à rapatrier. Le moratoire dont vous venez de parler?
Oui. Commencer à rapatrier. Et au fur et à mesure qu'on rapatrie, alors à ce moment-là, on peut recommencer à affecter d'autres diplomates. Puisque, comme le ministre avait dit aussi dans son intervention, qu'il y a pléthore, qu'on avait toujours envoyé sans songer à rapatrier. Maintenant, on commence à rapatrier. Je pense, d'abord, il faut commencer par rapatrier un bon nombre avant de recommencer à affecter d'autres diplomates.
Et alors, s'il faudrait procéder à la fermeture de certaines ambassades, quelles sont celles qu'il faudrait laisser?
Mais ça a été déjà décidé depuis longtemps, ce qu'on devait fermer. Mais jusqu'à présent, on les a pas appliquées. Donc, les responsables des affaires étrangères savent bien par où on avait dit qu'il faut commencer par fermer et ce qu'il faut, il faut laisser, et que les autres aussi où il y avait beaucoup de diplomates comme nos grandes ambassades en Europe, qu'on devrait quand même réduire les effectifs.
Professeur Moïla Tchiembe, il y a Pascal qui nous écrit de la province orientale qui dit « Je ne vois pas comment le gouvernement pense restaurer la sphère diplomatique alors que sa politique interne semble défaillante. L'État doit d'abord restaurer sa puissance interne pour espérer à un rayonnement diplomatique sur la scène internationale. La façon dont nos missions diplomatiques et la politique internationale sont organisées ne nous permet pas d'avoir un espoir, professeur. »
Il faut dire à votre compatriote que la politique étrangère, c'est une partie de la politique publique. C'est comme l'agriculture, comme la santé, comme l'éducation. Donc la politique étrangère fait partie de la politique publique. Elle est décidée par les autorités, à la seule différence qu'elle s'applique à l'extérieur de frontières nationales. Donc la politique étrangère, comme je disais tout à l'heure, elle précède la diplomatie, parce que la diplomatie n'est que l'application de la politique étrangère. Alors, votre
auditeur,
la personne qui téléphone, voudrait savoir comment est-ce qu'un pays qui n'est pas puissant peut avoir une diplomatie ou une politique étrangère. C'est un débat avec nos étudiants. Est-ce que tous les pays qui ne sont pas puissants peuvent-ils, oui ou non, avoir une politique étrangère? Évidemment. La politique étrangère est liée à la souveraineté, à l'idée que chaque pays se fait de sa vision du monde et de la société et des objectifs qu'il s'assigne, soit pour maximiser les opportunités, les choses qui se prennent dans le monde, la mondialisation. Le ministre vient parler tout à l'heure des pays émergents, si on vise la paix, si il faut une diplomatie du développement. Voilà les objectifs qu'un gouvernement, un État peut assigner à sa diplomatie. Mais ces objectifs ne suffisent pas en soi, parce que il faut préalablement que le gouvernement, c'est-à-dire l'État, qu'on arrête et une stratégie du développement. À partir du moment où cette stratégie du développement est définie, attribuée à l'ensemble des ministères, l'économie à sa part, la santé à sa part, l'éducation à sa part, à ce moment-là, la politique étrangère joue aussi sa partition dans l'ensemble de cette redéfinition pour voir qu'est-ce que la politique étrangère peut faire en matière de développement, qu'est-ce que la politique étrangère peut faire en matière de recherche de la paix, etc., etc. Bien entendu, un État qui n'est pas fort à l'intérieur ne peut pas avoir une puissance à l'extérieur, c'est une évidence. Mais la politique étrangère n'est pas seulement une projection dans le futur ou dans le monde ou dans dans ce qu'on peut considérer comme la scène internationale. C'est aussi, puisque c'est une politique publique, qui part des possibilités que l'État a dans la définition de ses politiques globales. Je pense à la politique de la défense, je pense à la politique économique. Si un pays ne produit pas les biens et services, il ne peut pas émerger. Donc, pour que la diplomatie ou la politique étrangère puisse s'articuler autour de l'attirance, par exemple, des financiers étrangers, montrer les secteurs clés du Congo dans lesquels il faut investir et faire de la publicité comme lobbying à l'extérieur pour attirer les partenaires, ça suppose au préalable que le gouvernement congolais ait une politique économique, une stratégie industrielle Et à partir de là, la diplomatie peut jouer sa partition que l'État lui définit conformément aux objectifs du gouvernement.
Professeur, je posais tout à l'heure la question à Thomas Mambo, quelle serait la solution pour lui? Il a notamment énuméré le rapatriement, le paiement des salaires, la fermeture de certaines ambassades, mais par ordre de priorité, il pense qu'il faudrait commencer par un moratoire quant à l'affectation des nouveaux diplomates. Quelle serait la priorité d'après vous?
Non, je pense que dans cette matière, il faut faire confiance au gouvernement. Bien entendu, tout le monde peut dire, mais oui, mais ça fait longtemps, on répète la même chose. Mieux vaut tard que jamais. On peut se féliciter que, au moins une fois, comme Monsieur le ministre vient de le dire, apparemment, d'après lui, il est au gouvernement, je présume que de bonne foi, il a les informations nécessaires, comme d'ailleurs l'a indiqué Monsieur le Premier ministre. Puisque la croissance est là, on peut supposer qu'il y a plus de moyens qu'à l'époque où l'État était à genoux. Alors, à partir du moment où il y a une volonté de mettre fin à ces situations chaotiques de nos compatriotes et de l'outil diplomatique, on peut faire confiance au gouvernement pour qu'il y ait discernement. Dans la priorité des priorités, il faut d'abord en finir avec ces familles qui traînent encore ici dans la misère la plus totale pour beaucoup de gens. Et puis, dans le deuxième temps, quand ces questions d'intendance qui sont en train d'être examinées par le gouvernement, il faut alors, à ce moment-là, revenir à l'essentiel. Et je pense que le ministre Tshibanda avait déjà exprimé un point de vue qui consistait à dire il faut aller véritablement dans la redéfinition de cette politique étrangère, comme le président de la République et le Premier ministre l'ont souhaité. Je ne sais pas quelle forme la chose prendrait. Peut-être que M. le vice-ministre en a déjà une idée. Est-ce qu'il faut commencer par, une réunion d'experts, un colloque international ou qui permette au gouvernement, aux intellectuels ou à la réflexion de mettre à la disposition du gouvernement les outils à partir desquels le gouvernement peut décider. Donc il y a la question de la refondation de la politique étrangère qui est une priorité des priorités et de cette redéfinition, que ce soit les questions de paix, que ce soit les questions du développement, que ce soit les questions de l'émergence dont M. le vice-ministre a parlé. Alors à partir de là, ça c'est vraiment le moyen et le long terme. Mais là, immédiatement, il faut régler les questions d'intendance. Parce que, tu sais, dans les ambassades ici, les gens vivent au jour le jour.
Merci,
on
professeur.
Ne peut pas leur demander d'attendre dans 5 ans ou dans 6 ans.
Merci, professeur. Je rappelle que professeur Maïla Tchiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Maître Célestin Tundaya Kassende, vous êtes vice-ministre des Affaires étrangères. En passant, Maître Tunda, avez-vous une idée des diplomates, du nombre des diplomates que compte la RDC à ce jour?
Oui, on a à l'extérieur un peu moins d'un millier d'hommes. On va pas donner tous les détails parce que c'est quand même une question de souveraineté. Mais je partage parfaitement les avis du professeur Tshiembe. Je crois que ce que vous devriez aussi retenir, et je crois que les diplomates qui est avec vous à l'antenne, ils le sait, l'opinion le sait également, nous avons commencé un travail de titans sur le plan de l'assainissement de notre diplomatie. Je l'ai dit tout à l'heure, le rapatriement a commencé, il est en cours et il va continuer jusqu'à son terme. Si on n'a pas, comme l'a dit tout à l'heure notre compatriote, qu'on n'a pas encore commencé avec, disons, l'Europe, eh bien, il fallait commencer quelque part. Et là, pour le Benelux particulièrement, il y avait un problème d'exécution parce qu'il y avait déjà un montant qui était déjà positionné à la Banque centrale. C'est au niveau de l'exécution qu'il y a eu un accroc, mais la décision était prise.
Et donc,
l'arriéré, c'est également dans la pensée du gouvernement. Et le premier avocat des affaires étrangères aujourd'hui, c'est même le vice-premier ministre chargé du budget. C'est lui qui est en train de plaider pour que, n'est-ce pas, toutes les dimensions de la politique étrangère, de notre diplomatie, soit réglée. Donc c'est une chance pour nous. Le problème des arriérés va être réglé. La fermeture, c'est vrai, il y a des postes qui devraient être fermés, mais il faut être réaliste. Il y a peut-être des postes qui étaient positionnés à être fermés, mais aujourd'hui, il faut se poser la question s'il faut aller jusqu'au bout.
Merci.
C'est le cas, par exemple, de Accra. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de fermer le poste de Accra? Bon, ça, ce sont de postes qui étaient alignés dans les prévisions
Merci.
Antérieures, mais il faudra revoir tout ça. Et aussi, il y a un élément important
Très rapidement,
dans le cadre de l'assainissement,
c'est le rajeunissement.
On n'en a peut-être pas parlé, c'est un élément important. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour rajeunir nos diplomates.
Merci.
Il y a un concours qui passera, on va recruter des jeunes qui seront formés, on va renforcer leurs capacités avant leur déploiement, parce que bon, il faut avouer que nous avons aussi des gens qui ont pris de l'âge.
Merci Monsieur le Vice-Ministre, je vous redonne la parole tout à l'heure pour conclure. Thomas Mambo, vous êtes diplomate à l'ambassade de la RDC en Belgique depuis 25 ans, vous vivez à Bruxelles depuis 43 ans, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission, il faut déjà conclure. Vous souhaitiez parler également de la diaspora congolaise.
Oui, je souhaitais aussi parler de la diaspora, étant donné que je vis là depuis des années. Souvent ici, quand on parle de diaspora, on parle des combattants, alors que la diaspora est composée de beaucoup de Congolais. Et il n'y a pas seulement des combattants, les organisations politiques et les grands partis qui sont ici, ils ont aussi des représentants là-bas. Donc il y a différentes sortes de diasporas qui existent là-bas.
Et donc, à vous comprendre, la RDC a une diaspora tellement riche qu'elle devrait en bénéficier.
Bien sûr, puisque notre diaspora n'est pas comme d'autres diasporas qui sont partis des ouvriers qui sont allés travailler dans d'autres pays. La plupart de notre diaspora est constitué par des étudiants, des fonctionnaires qui étaient partis en formation, qui sont encore là-bas, et quelques réfugiés qui se sont ajoutés.
Voilà, et en guise de conclusion déjà, Thomas Mambo, puisqu'il faut terminer, avez-vous de l'espoir par rapport à toutes les propositions que le gouvernement, que le vice-ministre a énumérées au cours de cette émission? Avez-vous lieu d'espérer?
Bien sûr. Je vois que le gouvernement fait un effort pour pouvoir commencer, comme il a dit, il va commencer à faire quelque chose. Et j'ai l'espoir, et mes collègues aussi qui attendent depuis des années, ils seront aussi content d'apprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare.
Et en passant, puisque, comme on dit, l'occasion faisant le larron, vous avez fait une année ici, vous avez dit sans être reçu, je pense que après cette émission, on donnera vos coordonnées au vice-ministre pour qu'il puisse vous recevoir, parce que ça fait quand même beaucoup de temps que vous êtes ici à Kinshasa.
Ah oui, s'il accepte, ça serait volontiers de pouvoir les rencontrer.
Voilà. Professeur Moïla Chiembe, il faut déjà conclure. Professeur, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la relance de la diplomatie congolaise pour vous?
Ce qu'on peut retenir, c'est que la volonté du président de la République et du gouvernement que le ministre et le vice-ministre expriment soit matérialisée d'abord avec priorité évidemment à l'intendance, comme ils sont en train de s'en occuper, essayer d'en finir avec le rapatriement dans la mesure du possible, accélérer l'assainissement, et puis revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire cette question de refondation de la politique étrangère dont monsieur le ministre et le vice-ministre parlent, dont le projet existe déjà. Je ne sais pas combien de temps faudrait-il mettre pour le matérialiser, parce qu'en ce moment-là, on pourra aider le gouvernement à redéfinir les axes de cette politique étrangère en fonction de ce que le président de la République lui-même a déjà indiqué, que ce soit la paix, le développement, etc., etc. Et même quand monsieur le vice-ministre parle de le recrutement, oui, il faut recruter. L'ancien ministre Tambo Mamba en avait déjà parlé d'une manière suffisante, n'eût été les accros du temps qui ont fait que ce projet a été accumulé. Mais avant de commencer par le recrutement de nouveaux diplomates, il faut déjà savoir quel est le profil du diplomate dont le gouvernement congolais a besoin pour les années à venir.
Merci professeur Moïla. Maître Célestin Tounda à KCND, conclusion, quel message vous pouvez lancer à tous les diplomates qui vous suivent en ce moment à travers le monde? En un mot, je vous en prie.
Je crois qu'ils doivent avoir de l'espoir, parce que tout à l'heure j'ai suivi notre ami qui disait, je crois, à partir de, je ne sais pas, de Goma ou de Bukavu, en disant c'est du déjà entendu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Le président de la République a dit, je suis en train de moderniser le Congo. Eh bien, voyez vous-même l'état des routes aujourd'hui. Le jour où le boulevard Lumumba sera suffisamment éclairé, Je crois que ce sera la première, la plus belle et la plus grande route du monde, plus que même les Champs-Élysées.
Merci, Maître Célestin Tounda. C'est par vous que nous terminons. Merci à Guimaté, Kevin Kouté, qui m'ont aidé à vous présenter cette émission sous la supervision de Pélé Kipela. Héritier Sidiakala et Patrick Yassongwa étaient à la technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur Radio Capi.